Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Place de la République, c'est une série qui cherche à savoir si la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité, est bien respectée, notamment dans ce qui fait notre singularité et notre fierté parfois, les services publics, la santé, la sécurité et la proximité. Nous en avons choisi trois aux quatre coins de France, une mairie de secteur à Marseille, dans un quartier plutôt aisé, un commissariat à Auxerre et le CHU d'Amiens. Semaine après semaine, le mercredi à l'antenne et en podcast, on y rencontre des usagers et des agents. Aujourd'hui, à l'hôpital, nous ferons connaissance de François, qui est agent de maintenance. Il connaît l'hôpital comme sa poche et il sait tout réparer. Mais récemment, il est monté à Paris. Géographiquement, on pourrait aussi dire qu'il est descendu. Et il lui est arrivé une aventure pas très drôle. Pendant ce temps, dans la splendide Villa Bagatelle, qui abrite la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille, deux administrés en attente d'un logement HLM sont reçus par l'adjointe au maire en charge du logement. Mais tout de suite, nous partons à Auxerre, toujours avec le GSP, Groupement de Sécurité Publique. C'est la suite de l'épisode précédent. Le mari violent que nous avons entendu la semaine dernière arrive en garde à vue, non pour les faits de violence conjugale, hélas, mais parce qu'il a résisté aux policiers, qu'il s'est débattu et qu'il leur a donné quelques noms d'oiseaux. Place de la République, saison 2, épisode 6, Résister. Reportage Rémi Dibov-Skidouat, Pauline Mocor et Jeanne Robet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Police Secours, bonsoir.
Là, vous allez faire quoi ?
On va vite appeler le parquet, envoyer un fax pour leur dire qu'on a mis le type en garde à vue.
Parce que là, il est en garde à vue. Pourquoi alors, du coup ?
Et bah, du coup, comme il nous a insultés sur place, donc il est là pour outrage. Puis comme il a pas, il s'en est pris aux collègues, il a bougé au moment de l'interpellation, donc on lui retient la rébellion également. C'est pas une rébellion passive, il a essayé de mettre des coups visiblement, mais ça les collègues m'ont dit en plus parce que moi j'étais à l'intérieur, donc j'ai pas trop vu ce qui s'est passé à l'intérieur.
Alors moi je fais la saisine pour l'interpellation, pour la rébellion, l'outrage, les violences. Et ensuite il y a deux collègues qui vont déposer plainte pour outrage, dont monsieur à côté.
Bah parce qu'il les a traités de fils de pute, d'enculé, de condé, et puis qu'il était un peu rebelle, il voulait pas trop se laisser.
Il s'est pas laissé menotter, et puis il s'est pas laissé transporter jusqu'au véhicule non plus. On a dû porter.
Puis quand il débat ses pieds, il me met un coup sur la main, sur les doigts. D'où là, je lui mets une où je riposte et je lui mets un coup de genou dans la cuisse. Pour qu'il arrête de se débattre.
C'est qui fait la saisie, voilà.
On va tout acter et puis il va s'expliquer. Comme il est déjà connu pour des violences sur AFP, notamment les gendarmes, on va suivre ça. Mais moi je laisse pas passer. C'est tout le temps ça notre routine. Je pense que s'il n'y avait pas d'alcool, on n'aurait pas de travail. Quoi. C'est que ça la nuit, que ça. Violence au fond d'alcool, tout le temps.
Ah non, mais je te dis, moi j'avais peur qu'il nous balance par le balcon. Hein.
Ouais.
Moi aussi, hein, parce que le balcon, c'est bas. Hein.
Ouais.
C'est bas les barrières. Hein.
Et puis devant chez lui, il y a une marche. Ouais. Enfin, devant la porte. Mmh.
Mais bon, t'as remarqué qu'il lui porte du taser. Hein.
Ah oui.
Il avait trop peur, reculé.
Non, là, on était trop confinés, trop de collègues. C'était mieux de. Il était tenu, c'était mieux de le prendre en choqueur et puis juste de lui mettre une. Petite dose dans la jambe ou dans la fesse, histoire de le détendre un petit peu.
Ça fait un gros coup de 220 volts, quoi.
Et ça dure combien de temps, l'effet ?
Ah, bah, l'effet en mode choker, c'est immédiat. C'est immédiat, juste attendre que le cycle se finisse. Donc, si on met juste comme ça, ça va durer 2 secondes, si une seconde, ou si on lui laisse le cycle en entier, ça durerait 5 secondes.
Après, ça aurait bien pu se passer, hein ?
De quoi ?
Ça aurait bien pu se passer ?
Bien sûr.
S'il était resté dehors,
bien sûr.
Comme on lui a demandé. Ça serait passé très bien.
Et puis on serait parti, puis alors ?
Ben voilà.
Et qu'est-ce qu'il fait là ? À la caméra ?
Là, il sait qu'il est sous vidéosurveillance, donc il ne peut pas, donc il essaye de cacher la caméra.
Voilà. Mais il essaie de coller du papier toilette sur l'écran.
Il a trouvé des... On en a vu des fois qui prenaient la couverture pour essayer de s'étrangler.
Alors on leur enlève la couverture. Ils n'ont plus que le matelas. Alors, des fois, il y en a qui déchirent le matelas pour essayer de récupérer, pour faire la même chose, pour essayer de se pendre. Donc on leur enlève le matelas. Alors, avec le t-shirt, on en a vu un qui finissait, un qui était en... qui était nu parce que à chaque fois qu'il avait un vêtement sur lui, il essayait de s'étrangler avec. Quand ils sont sous l'emprise de l'alcool, ils sont carrément incontrôlables.
Là, il va se servir du matelas pour essayer de coller le mouchoir sur la caméra.
Procès verbal. Donc, l'an 2018, le 11 novembre, à 3h35. Donc, nous trouvons au service, poursuivant l'enquête de flagrance, vu les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale. Ce soir, à 2h20, donc en compagnie du brigadier Chevrel, nous nous sommes rendus en OCR pour un différend familial. Sur place, nous avons pris contact avec le couple. Le brigadier chef, en accord avec la dame, est rentré dans l'appartement pour discuter avec elle. L'auteur s'est énervé, il semblait fortement alcoolisé, ses yeux étaient rouges et brillants. Il était agressif verbalement envers les fonctionnaires de police présents. Prétextant vouloir un mouchoir, il attendait de rentrer dans l'appartement. Le collègue du GSP s'est interposé. Il l'a bousculé, le collègue, qui lui-même l'a repoussé fermement. L'auteur a insisté, et c'est à cet instant que les deux collègues du GSP et moi-même avons procédé à l'interpellation. Nous l'avons maîtrisé pour procéder à son menottage. Je vous précise qu'il s'est violemment débattu, sans pour autant nous atteindre. Personne n'était blessé lors de l'interpellation. L'individu a été amené au sol en position assise. Il a alors déclaré « Quelle bande de fils de pute !» en s'adressant à nous, plus précisément les trois collègues du GSP et moi-même. Lorsque le brigadier chef nous a rejoints, l'auteur a refusé de se lever. Nous avons été dans l'obligation de le porter jusqu'au véhicule. Quand nous étions dans l'escalier, dans le cadre de son transport, je tenais sa jambe gauche. Il a réussi à me faire lâcher prise en se débattant. Il m'a porté un coup de pied au niveau de la main droite sans me blesser. Afin de reprendre sa jambe, je suis venu plaquer mon genou sur sa cuisse pour éviter qu'il puisse à nouveau me porter des coups. Durant le trajet dans les escaliers, il m'a personnellement dit « Enculé, je vais me rappeler de ta tête ». Nous sommes arrivés dans le véhicule. Durant le trajet, il nous a déclaré « J'aurais pu vous cogner car j'ai déjà cogné un gendarme ». Je précise que je n'ai pas été blessé durant l'intervention. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je dépose plainte contre l'auteur pour les faits relatés. C'est ma plainte qui va aller au parquet avec la saisine. Et puis voilà. En espérant qu'il se calme.
C'est la première fois que vous déposez plainte ?
Non. Non, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. C'est fréquent. Ça me protège. Ben, il peut me nuire en déposant plainte et en racontant qu'on l'a frappé, que les collègues l'ont frappé, etc. quoi. Alors que tout ce qu'on met en œuvre sur le terrain, c'est toutes les techniques d'intervention et de maîtrise qu'on apprend en école de police, quoi. C'est des gestes précis, simples, professionnels. J'espère vraiment qu'il arrête, que ça cesse. J'espère qu'il change, en tout cas. Voilà. Mais je vous dis, c'est vraiment... La majorité, c'est l'alcool, quoi. Et après, une fois que c'est passé, bah, ils sont gentils. Moi, j'aime ça aussi, dialoguer. C'est vrai que, bon, on a eu des personnes qui ont fait des méfaits, mais c'est toujours parce qu'il y a eu quelque chose qu'ils ont fait ça. Donc il y a toujours un dialogue, enfin j'ai envie de dire humain en fait, avec ces personnes-là, pas sauvage quoi. C'est besoin de me sentir utile en fait. Voilà, ça me rend fier. Sincèrement, c'est vraiment un métier qui me rend fier. Non, c'est vraiment, c'est une vocation quoi. À donner de ma personne, voilà, pour pour une cause juste, quoi.
Il en a remis encore ? Mais putain, mais il le sort d'où ? On l'a foutu à poil. Il s'est déshabillé devant nous. Il a encore remis du papier sur la caméra.
Mais il n'y a pas du PQ vers les toilettes ?
Ah, il y a peut-être du PQ dans les toilettes. Il y en a peut-être, hein, j'ai peut-être pas fait gaffe.
C'est possible. Quoi. Il,
ouais, il doit bien y avoir du papier de toute façon dans les toilettes.
La police secours, bonsoir.
Faut y aller, je pense.
Vous avez quelqu'un ? Allô ?
Allô ? Allô ?
Oui ? Dites-moi qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Dites-moi qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Oui ? Dites-moi qu'est-ce qui se passe ?
Universitaire Amiens-Picardie. Le CHU Amiens-Picardie, bonjour.
Je travaille dans la maintenance avec les services techniques. Donc on a en charge le maintien des installations, aussi bien électrique, plomberie, toute l'infrastructure. S'il y a des pannes, on est là pour les réparer. Moi, ça fait bientôt 5 ans que je fais ça. J'aime beaucoup ce travail. Et puis c'est vrai que le milieu hospitalier m'a toujours intéressé. Moi, mon père y a travaillé pendant de nombreuses années en gériatrie en tant qu'aide-soignant. J'ai aussi un frère qui travaille au service technique. Donc c'est un milieu que j'ai toujours plus ou moins côtoyé. Après, c'est vrai qu'en y travaillant, je me rends compte des problèmes qui peuvent toucher les établissements de santé. Par exemple, le fait qu'il y ait de plus en plus de contractuels dans la fonction publique. Donc moi-même, depuis 5 ans que je travaille au CHU, je ne suis pas titulaire, donc je ne suis pas fonctionnaire. Je suis contractuel. Je n'ai pas certaines primes que pourraient avoir les fonctionnaires. Je n'ai pas non plus forcément la facilité de monter d'échelon, d'ancienneté. Et je n'ai pas forcément cette sécurité de l'emploi qu'ont les vrais titulaires. Alors mon père qui a été soignant pendant, je crois, 24 ans, qui en plus a travaillé de nuit, on peut dire qu'il en a bavé. Il a pris sa retraite anticipée il y a environ 15 ans. Et quand il a quitté l'hôpital, moi ça m'a marqué, il m'a dit qu'il avait quitté l'usine. Fatigué et en colère. En colère pour tous ses collègues qui sont restés sur place. Et en colère pour tous ceux à venir. Et puis pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, notre vécu, son vécu, notre milieu familial fait qu'on se sent clairement gilet jaune. On se sent vraiment concerné par leurs revendications. Alors moi, le 8 décembre, j'ai voulu du coup descendre à Paris pour participer à la manifestation. Donc nous étions deux. On arrive en gare de Paris et puis on sort de la gare. Et arrivé à un passage piéton à 500 mètres de la gare, là, trois policiers arrivent. Moi, j'avais rien à me reprocher. On était serein, on n'avait rien pris. Je rigolais même en disant, j'ai même pas pris un briquet, j'ai rien, je suis clean. Mais effectivement, quand ils ont ouvert mon sac, ils sont tombés sur un masque de protection pour la bouche et un masque pour les yeux, un peu style masque de piscine. J'avais fait un peu comme tout le monde, hein, pour se protéger des gaz. Bon, bah, j'avais pris les protections. Et là, il y a le commandant qui dit à l'autre, on les embarque. Voilà, on dit, c'est une blague. Il dit, non, on vous amène au camion. Puis arrive ce qu'on appelle le panier à salade. Et là, toujours le commandant nous dit, bon, bah, vous inquiétez pas, c'est un contrôle d'identité, vous en avez pour 2-3 heures. Donc là, on monte, et puis on roule quelques minutes. Et là, on arrive donc dans la cour d'un commissariat. Les pans s'ouvrent, on descend un par un. C'est tout de suite un niveau différent. Là, les policiers sont armés, ont l'air fâchés, ont l'air très stricts. On est refouillés. Il y en a un qui nous balance. De toute façon, c'est garde à vue. Et puis un par un, on va nous prendre nos affaires. On va nous prendre nos portables aussi. Et ils vont nous demander nos codes. On savait même pas qu'ils avaient le droit de faire ça, quoi. Et donc j'ai écouté un peu le regard vide. Me dire, voilà, vous allez voir un médecin, vous voulez un avocat, etc. Je savais même pas trop quoi répondre. Et donc après, donc je passe dans une pièce où je vais me déshabiller en sous-vêtements pour être totalement fouillé et faire l'inventaire de mes affaires. Et là, on va me placer donc dans une cellule. Donc nous serons 9 dans la cellule, les 3 Amiénois et puis d'autres personnes de l'Oise. Et on se rend compte que voilà, ils sont tous comme moi. Il n'y en a pas un qui est venu là pour faire de la casse, quoi. Il y en a de tout âge, de tous bords, de tous les métiers. C'est voilà, c'est les gars qui sont de milieux populaires, moyens, mais pas méchants, quoi. Vraiment pas méchants. Ils sont en colère, mais pas méchants. On voit de temps en temps des policiers venir devant la cellule un peu. On s'est un peu senti comme dans un zoo. Ça m'a marqué, il y en a un qui a dit. On n'a jamais vu autant de blancs dans une cellule. On était dans le commissariat de Barbès. Ça les faisait rire presque. Puis au fur et à mesure de la journée, donc on a appelé un par un pour voir les médecins. Donc voilà, bah, on a le droit à tout ce qui est test ADN, empreintes, photos avec une pancarte. Vraiment, on a l'impression d'être des criminels, quoi. On commence l'audition. Il cherche à savoir pourquoi je viens à Paris, pourquoi je viens malgré les interdictions, malgré toute la casse qu'il y a pu avoir les week-ends précédents. Et bon, moi, je continue à dire que moi, je viens pacifiquement. J'ai même dans mon sac une trousse de soins parce que j'ai des notions de secourisme. Je viens pour revendiquer, tout simplement, mais pacifiquement. Et il finit par me dire « Bon, ben, reconnaissez-vous les faits pour réunion dans le but de commettre un délit ?» Et donc là, bon, voilà, je dis non, je ne reconnais pas les faits. Puis à la fin donc, de l'audition, je signe mon procès-verbal. Voilà, il est 15 ou 16 heures, je suis en garde à vue depuis 9 heures du matin. Et donc je retourne dans ma cellule. Et finalement, oui, je suis relâché. On l'est tous, mais on l'est avec un rappel à la loi qui me dit qu'il n'y a pas de poursuite à condition que je ne commette pas d'autres infractions dans un délai de 1 an, sans quoi je serai poursuivi par le tribunal. Alors le motif, c'est en gros avoir participé sciemment à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations en réunion. Je me suis senti obligé de signer ce rappel à la loi. Est-ce que j'aurais dû ou pas ? Je connais pas assez bien les lois pour savoir si je pouvais ou pas. Et j'ai signé, j'avais envie de sortir. Depuis, je ne suis pas retourné à Paris, parce que finalement, le rappel à la loi fait son travail, c'est qu'il fait peur. Et donc, je ne suis pas retourné à Paris, mais quand je faisais les manifestations moins importantes sur Amiens, Je regardais toujours un peu derrière moi, un peu sur les côtés, toujours un peu méfiant de risquer une interpellation, puis que là je sois sanctionné plus sévèrement. Donc ça nous empêche vraiment de manifester, ça nous coupe un peu dans notre droit. On se sent menacé, on se sent pas libre de manifester. J'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête.
Mairie 6-8, bonjour.
Alors, c'est la première fois que je vous reçois, monsieur Minot. Hein.
Oui, je crois que oui.
Ouais, oui, c'est sûr. Je me serais rappelée de vous.
Voilà, moi aussi.
Ah oui. Merci. Voilà. Alors, en fait, vous habitez boulevard de la Verrie.
Oui.
Vous souhaitez un T2, vous avez
voilà,
un T3.
Je vous explique. J'ai un T3.
Ouais.
Actuellement. Et mon fils a quitté l'appartement il y a de ça 2 ans, donc on n'est plus que tous les deux, au moins vraiment à la maison pour un T3, donc c'est pas. Mon fils il vit plus à la maison, donc mes revenus ont baissé, mes aides ont baissé.
D'accord.
Et on y arrive. Il nous faut absolument un T2.
D'accord.
Un T2, voilà. Parce que moi, ce qui me passe gros, c'est que bon, déjà le loyer il a augmenté énormément.
Oui.
Et l'électricité et le gaz, il n'est pas compris dans le loyer comme auparavant. Et maintenant, moi, le loyer qui a augmenté plus 80 quelques euros d'électricité de gaz tous les mois, j'arrive plus. Je m'endette, absolument, je m'endette. Ma femme ne travaille pas, donc il y a comme moi qui...
Là, vous avez une dette locative ou pas? Non,
votre
loyer.
Absolument,
hein. Voilà, c'est important.
J'ai reçu ce matin le loyer et j'ai payé mon loyer jusqu'à la journée. Puis garder un T3 pour deux.
C'est sûr que c'est pas trop logique. Et là, vous voulez demander où, vous m'avez dit?
Eh bien, on a demandé une priorité où j'étais avant, Sainte-Geneviève. On était bien là-bas, on a fait là-haut. C'est une connerie, on voyait la mer, on voyait la campagne, on s'est dit, on
sera bien. Vous avez été aveuglé par la mer.
Oui, on était aveuglé, on a vu la campagne, on a vu la mer en bas de chez nous. Paradis.
Comme quoi, le mieux est l'ennemi du bien.
C'est un beau quartier, bord de mer, d'ailleurs.
Alors, c'est un quartier du 8e, qui est au bord de la mer.
Ah, c'est le début des Calanques.
Exactement.
Moi, je m'en vais le matin une bonne heure. Moi, j'aime bien marcher. Moi, je m'en vais de chez moi. Je descends bas à Madrague au moins trop d'eau. Vous laissez. Le ville est terminée. Je prends à gauche, je monte à campagne à la ville. Je me fais 2-3 heures de randonnée dans la colline. Je vois des écureuils. Je vois. C'est une soirée ailleurs que Marseille. Hein.
Ouais.
C'est 20 ans qu'on y habite. Mais écoutez-moi, je vous garantis. On n'arrive pas à s'implanter, on a eu des problèmes.
D'accord.
J'ai eu des gros problèmes.
Avec le voisinage.
On est passé même à un tribunal et tout.
Ah oui, oulala.
J'ai eu des gros problèmes avec le voisinage dessous chez moi.
D'accord.
Elle m'a créé de bruit, m'enrayer la voiture, il m'a crevé pendant la voiture. Bon, c'est un peu calmé, bon. Et c'est que des grandes familles qui se connaissent tous. Et en se connaissant tous, il s'est formé une mentalité. Mais le quartier est en pleine construction. Vous connaissez l'usine Vente?
Le comment?
L'usine Vente, la Madrague de Montredon.
Oui,
l'usine Vente. Ils l'ont arrêté. Ils vont la casser, là. Ils vont faire 51 logements, la Madrague. Et vous savez que ça va être beau, 51 logements, au pied des collines. Ah, ça va, attendez, bon, je ne sais pas quand le sol sera dépollué.
Le Grémente, c'est l'usine d'acide tartrique qui a été désaffectée et il faut après dépolluer. Voilà. Et en fait, les futurs promoteurs doivent dépolluer, mais ça coûte un prix faramineux.
C'est 55 logements sociaux?
Non, pas du tout. C'est des beaux logements avec des belles villas.
C'est des villas au pied des collines.
Bah, j'ai tout noté, monsieur.
Bon, voilà, bien d'accord. T'es deux, je pense, j'ai compris. C'était Geneviève la Soude. Pas cette Antoine. Hein.
Non, vous inquiétez. De toute manière, ça sera ou le 6 ou le 8, où on va rattacher votre dossier au 9-10, donc il n'y a pas de souci.
Voilà,
Mais par contre, soyez patient encore un peu. Mais
ça fait 2-3 ans que j'attends.
Je sais bien.
Je n'ai pas attendu conséquent. Voilà.
C'est la première fois que je vous vois.
Oui.
Donc, racontez-moi un peu votre situation.
Moi, je travaille à Valou Crèche.
D'accord. Ok.
Je suis agent d'entretien en crèche.
Je prends des notes.
Oui, allez-y.
Donc, actuellement, vous êtes dans un...
T1.
Et qu'est-ce que j'ai? Donc, il y a vous, il y a...
Mon compagnon.
Votre compagnon et votre fille.
Oui.
C'est ça. Donc, qui est née en 2009. Donc, il vous faudrait un
T3. Alors, moi, je suis à 700 euros.
Pour votre terre, vous payez 700 euros?
Ça fait 20 ans que j'y suis.
Non, mais c'est cher.
Parce qu'il y a eu l'augmentation de presque 200 euros. Mais c'est vrai que c'est cher maintenant. Moi, j'habite le Rouet, c'est Perrier-Rouet. C'est un ancien, comme on dit au Vieux-Marseille, c'est un ancien bidonville. Avant, c'était le Rouet, c'était les Arquis qui habitaient. Moi, quand je suis arrivée au Rouet, il y avait encore les Arquis, il y avait encore les petits immeubles, tu voyais les petites maisons, les gens s'entraidaient et tout. Après, avec les années, les constructeurs sont venus, ils ont acheté, la ville a acheté, les immeubles se sont montés. Beaucoup de Parisiens, il y a beaucoup, vous voyez, beaucoup d'étrangers et tout.
Bon, la ZAC du Rouet, ça a une dizaine d'années maintenant. Oui. Et au fur et à mesure, il y a des promoteurs qui sont arrivés. Et ça a complètement renouvelé le quartier. Et ça a modernisé, en fait, ce quartier qui était, en fait, assez populaire et assez pauvre et assez sale. Voilà. Oui. C'était un quartier populaire avant qui est devenu un quartier... C'est pas un quartier huppé, attention, hein, mais qui a pris quand même de la valeur. Voilà. Donc là, on est en attente pour vous à l'avenue Raymond Tesserre.
Ouais, boulevard Rabatto.
Rabatto, exactement. Donc j'espère qu'ils ne tarderont pas à donner une décision. Voilà, déjà, vous avez été proposé. C'est quand même assez rare, hein, on va dire. Voilà. Après, je ne peux pas vous donner de délai.
Par rapport à ce qui s'est passé, du moment que j'ai un toit et que la petite est à l'école.
Après, c'est vrai que tout est relatif. Hein. Voilà. C'est toujours pareil. Hein.
Je suis dans la priorité, mais sans être dans la priorité.
C'est ça.
Voilà. Oui, je veux dire. J'en connais dans
mais
la
c'est bien que vous le reconnaissiez parce que...
Non, j'en connais dans la rue de Bagne qui amènent leur petit à la crèche. Et un petit, il a amené sa mère, elle a amené le petit à l'école. Elle est rentrée chez elle et elle est tombée. L'immeuble est tombé. Alors, pour l'instant, c'est vrai, je ne suis pas dans l'urgence.
Voilà, vous n'êtes pas dans l'urgence.
Je suis dans l'urgence sans être dans l'urgence.
Exactement. Après, c'est, comment vous dire, ça sera step by step. Hein.
Voilà.
Comme je vous dis, l'année prochaine, on aura quand même une meilleure visibilité. Donc, mais on ne vous abandonne pas, hein, madame, vous savez. Hein. Merci à vous. Hein. Bon retour.
Au revoir.
Sun's falling down as it does in the interim, just because a crack between the worlds, the open figure
C'était Place de la République, épisode 6 de la deuxième saison, intitulé Résister, un reportage de Rémi Dibowski-Douat, Pauline Mocor et Jeanne Robet, réalisé par Cécile Lafont. Merci à Auxerre, à Frédéric Jean-Baptiste Sylvain, au commissaire Thomas Boudot, au capitaine Olivier Di Lulot, à Annie Jean-Louis, Michael D. et Baptiste C. Merci à Amiens, au CHU et à François, bien sûr, à la mairie de secteur des 6e et 8e arrondissements de Marseille. Merci aux agents, aux usagers, à Yves Morène et à Caroline Hochfelder. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Nino Lima, notre stagiaire.